bonjour à tous. Merci d'être là. Vous connaissez peut-être les camarades qui m'entourent, mais je vais quand même vous les présenter une fois de plus. Donc Valérie Hamon qui est sur Rennes et qui est conductrice de train. À mes côtés, vous ne le connaissez pas, je pense, c'est Serge Latchoumanin, qui est un camarade de La Réunion et qui est donc venu en fait de La Réunion pour le congrès. Parce que je vais vous le dire tout à l'heure, mais le congrès, c'est aussi l'occasion de nous retrouver, hein, et donc vraiment tous. Donc voilà, il était encore là aujourd'hui, donc c'est avec plaisir qu'il est présent dans cette conférence de presse. Isabelle Bonnet, qui est sur Marseille, qui est porte-parole sur Marseille et qui est enseignante. À côté, Farida Mekdoud, qui est sur Orléans, enseignante aussi. Et puis Jean-Pierre Mercier, que vous connaissez, donc de Peugeot Citroën. Voilà. Donc, porte-parole aussi, lutte ouvrière en Ile-de-France. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter les conclusions de notre congrès, hein, donc, qui s'est déroulé ce week-end. Et puis, je répondrai à vos questions ensuite. Alors, on a discuté sur la base de quatre textes d'orientation. Il y avait un texte, évidemment, sur la situation, sur la crise de l'économie capitaliste. Il y avait un texte sur la situation politique internationale. Un texte sur la situation politique et sociale, évidemment en France. Et puis, on a aussi fait un texte qui fait un peu le bilan de notre campagne. Hein. C'est un retour sur la campagne que nous avons menée. Je me rends compte que je n'ai pas éteint mon portable. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est sur la base de ces quatre textes que nous avons discuté. Ces quatre textes, nous pouvons vous les fournir si vous les voulez. Et dans tous les cas, ils seront publiés dans notre revue Lutte de classe, hein, revue hebdomadaire. Donc, voilà. Alors, ils ont été adoptés à l'unanimité, bon, ce qui montre une fois de plus la cohésion de notre organisation. Alors, je vais quand même vous dire quelques mots sur la situation politique dans le pays. Alors, je commencerai par la capitulation du gouvernement Hollande-Sarkozy face à Mittal, parce que c'est finalement la meilleure illustration de la politique de ce gouvernement. Hein, depuis qu'il est au pouvoir, on voit un gouvernement qui ne cesse de s'aplatir face au patronat, face au grand capital. Alors, ce n'était pas le grand capital, hein, la fronde des pigeons, hein, c'était plutôt les petits capitalistes et des petits entrepreneurs, mais même face à eux, le gouvernement, en quelques jours, a reculé. Il y a eu ensuite la pression qui a été exercée cette fois-ci par le MEDEF, par le grand patronat, autour du rapport Gallois et autour de la compétitivité. On a vu là encore le gouvernement reculer, puis au combien, hein, parce qu'il a quand même cédé 20 milliards à ce patronat. C'est quand même pas, ce n'est pas rien. Hérault s'est même vanté que c'était le double de ce que Sarkozy avait lui promis avec la TVA sociale. En effet, Sarkozy n'avait prévu que 10 milliards de cadeaux, et bien Hollande en aura fait 20. Alors, et pour faire ce cadeau, et bien le gouvernement s'est renié. Hein, il s'est renié sur son engagement de ne pas augmenter la TVA, hein, qu'il avait pendant la campagne, hein, Hollande, pendant la campagne, n'a eu de cesse de dénoncer l'augmentation de la TVA que Sarkozy envisageait, hein, en expliquant que c'était infondé, injuste, etc., et que lui, il ne le ferait sûrement pas. Et bien voilà, il s'est renié, très vite finalement. Alors, sur Mittal, qu'est-ce qu'il s'est passé vendredi soir? Eh bien, c'est une capitulation... De A à Z. Hein, le gouvernement s'est complètement aplati face à Mittal. En réalité, Mittal ne s'est engagé à absolument rien. Le gouvernement nous explique que le plan social, il n'y aura pas de plan social à Arcelor. Mais les 630 travailleurs qui ne sont plus au boulot depuis plus d'un an maintenant, en réalité, une grande partie est déjà reclassée. Hein, une autre partie est en chômage partiel, une autre partie, Mittal attend patiemment qu'il y ait des départs à la retraite. Donc, il y a un entretien aujourd'hui dans les échos de l'ancien PDG d'Arcelor, Guy Dollet, qui explique que, sans doute, Arcelor n'avait même pas dans ses plans de faire un plan social, parce qu'en réalité, ce n'était pas un problème pour lui. Bon. Alors là-dessus, en réalité, on ne peut pas crier à la victoire, d'autant moins qu'en réalité, les intérimaires qui sont sur la phase froide de Florange ont été justement licenciés, ont été mis dehors pour faire de la place aux travailleurs des hauts fourneaux, d'ores et déjà. Et puis, la casse sociale, elle aura bel et bien lieu chez les sous-traitants. Édouard Martin a évoqué 550 salariés concernés par cette sous-traitance, qui se retrouveraient sans rien. Donc effectivement, il y aura de la casse sociale en réalité. Quant à l'engagement de Mittal d'investir 180 millions sur 5 ans, tout le monde explique que de toute façon c'est de l'investissement finalement normal, que c'est dans l'ordre de grandeur de ce qu'il a fait en réalité depuis des années, sans compter que ce sont des promesses de Mittal dont le gouvernement lui-même, dont tous les membres du gouvernement ont dit qu'on ne pouvait pas s'y fier. Ils ont tous défilé cette semaine, il n'y avait pas seulement Montebourg, mais ils ont quand même tous défilé pour expliquer que Mittal n'avait pas tenu ses engagements sur le camp de range, qu'il ne fallait pas faire confiance à sa parole. Et puis au bout du compte, on entend Ayrault nous expliquer qu'il s'est engagé et donc qu'il faut lui faire confiance. Donc non, ça c'est vraiment une capitulation sans même avoir commencé le combat en réalité. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que les hauts fourneaux ne seront pas redémarrés. Et pire même, puisqu'il semblerait que la chauffe de ces hauts fourneaux soit stoppée par Mittal. C'est ce qu'a dénoncé Édouard Martin hier. Donc, après les fanfaronnades de Montebourg, après la menace de la nationalisation, eh bien on voit le gouvernement s'aplatir complètement. Les travailleurs de Florange se sentent trahis, ils parlent effectivement de trahison d'État. Eh bien oui, ils sont mis devant la vérité nue, c'est que ce gouvernement socialiste ne les protégera pas de la rapacité patronale. Et ils sont en réalité seuls confrontés à leur patron licencieur. Et je disais que c'était la meilleure illustration finalement de la politique du gouvernement, parce que c'est bel et bien ça. Dans cette crise, on voit le patronat à l'attaque, on le voit utiliser les travailleurs comme une variable d'ajustement. Il licencie, il ferme des usines, il aggrave les conditions de travail, il baisse les salaires, il multiplie les petits boulots pour que ce soit sur les travailleurs que pèse la crise, pour que les travailleurs amortissent finalement les pertes et pour sauver leurs profits. Et face à cette offensive patronale, eh bien on voit un gouvernement qui se range dans le camp du patronat, qui le laisse faire, qui lui laisse les mains complètement libres. Voilà. Alors, on se retrouve dans une situation où le chômage explose. C'est très difficile de faire la liste des entreprises qui licencient, parce qu'en fait, elles le font quasiment toutes. Ça serait plus court, ça serait sans doute plus facile de faire la liste des entreprises qui ne licencient pas, parce que de SFR à Candia, en passant par Sanofi, Thomson, Peugeot Citroën, évidemment, Florange, Petroplus, enfin bon, la liste, elle est illimitée en réalité. Des licenciements, il y en a de partout. Alors quoi d'étonnant à ce qu'on voit le chômage exploser et à ce qu'on voit une accélération y compris du chômage. Parce que moi, pendant toute la campagne, j'avais un chiffre de référence, c'était 1000 chômeurs par jour. Mais là maintenant, on n'est plus à 1000 chômeurs par jour, on est à 1500 maintenant. 1500 depuis le mois d'octobre, septembre-octobre, 45 000 travailleurs de plus au chômage dans le pays. Alors, voilà le résultat, effectivement, de la politique patronale et de la politique du gouvernement. Alors, tout le monde le déplore, tout le monde explique, tout le monde voit bien les conséquences de ce chômage, tout le monde dénonce la catastrophe sociale que c'est, ce que ça signifie pour toutes les familles populaires, la pauvreté que ça engendre, tous les problèmes, mais ni la droite n'a rien fait, mais les socialistes de pouvoir ne vont rien faire contre ce fléau, cette catastrophe qui frappe les classes populaires. Non seulement le gouvernement socialiste ne va rien faire, mais il a complètement baissé les bras. C'est un gouvernement qui a programmé le chômage. dans sa politique. Quand Ayrault nous explique que la courbe du chômage ne va pas s'inverser avant fin 2013, Hollande aussi nous l'a expliqué, c'est une façon de programmer la montée du chômage. Voilà. Et bien tous ces gens-là, ils s'en contentent. Alors, le gouvernement nous explique qu'on ne peut rien y faire, hein, que c'est comme ça. Certes, il est impuissant, hein, c'est de l'impuissance, mais nous la dénonçons, cette impuissance, parce que c'est de l'impuissance qui est voulue, c'est de l'impuissance qui est choisie, parce qu'un gouvernement du côté des travailleurs pourrait en faire des choses. Nous pensons qu'un gouvernement qui serait du côté des travailleurs pourrait commencer par interdire les licenciements. Tout simplement interdire les licenciements, et que tous ces grands groupes, tout ce grand capital qui est riche à milliards, eh bien, utilise une partie de ses profits pour maintenir tous les emplois. Qu'on impose à ce grand patronat de répartir l'activité et le travail sur tous les salariés, avec la garantie du salaire à 100%, évidemment, avec le maintien des salaires. Voilà ce que l'on pourrait imposer. On pourrait imposer à ce patronat que ce soit les profits, les dividendes, qui servent de variable d'ajustement, hein, plutôt que ce soit les travailleurs, qui toujours aient justement à le subir et à le payer. Mais ça, il faudrait effectivement un gouvernement qui soit dans le camp des travailleurs. Aujourd'hui, on voit que ce gouvernement socialiste ne l'est pas. Voilà, alors, non seulement on voit un gouvernement qui est pleutre, qui est lâche, et puis qui laisse faire les capitalistes comme ils veulent, hein, quand ils veulent, mais en plus, on voit quand même que c'est un gouvernement qui devance ses désirs. Hein. Il exauce quand même tous les désirs du patronat. Et bon, alors, on va rembourser hein, la dette aux banquiers remis sur l'ongle. Hein. Ces gens-là seront payés, hein, ils n'ont pas de soucis à se faire, ils seront payés. Nous allons nous tous payer, hein, les travailleurs, les smicards, les chômeurs, nous allons tous payer pour une dette que nous n'avons pas faite. On va payer, voilà. Et puis surtout, il y a eu ce fameux cadeau de 20 milliards, hein, fait au nom de la compétitivité, mais qui est un cadeau. Au bout du compte, Hollande a aussi son bouclier fiscal. Et il va nous coûter bien plus cher que le bouclier fiscal de Sarkozy. Beaucoup plus cher. Mais ça va être exactement ça va avoir exactement le même effet. On a effectivement des chèques qui vont être distribués, y compris aux grandes entreprises du CAC 40, qui ne payent pas d'impôts parce que, effectivement, ce ne sera plus un crédit d'impôt pour elles. Hein ? Ces entreprises du CAC 40 qui ne payent pas d'impôts sur les sociétés, ce ne sera pas un rabais sur les impôts qu'elles vont avoir, ce sera un chèque. Un chèque de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de millions. PSA, il semblerait que PSA, ceux qui ont fait les projections, touchera 75 millions au titre du crédit d'impôt sur la compétitivité. Bon, Carrefour, un des premiers gagnants aussi. Donc en réalité, c'est 20 milliards qui vont aller grossir les dividendes, qui vont se retrouver directement sur les comptes en banque privés des grandes fortunes, hein, qui vont se retrouver effectivement sur les comptes en banque en Suisse, en Belgique, je ne sais où, qui vont peut-être faire marcher un temps le marché du luxe, bon, ça c'est probable, hein, les yachts, les œuvres d'art vont peut-être peut-être bien marché, mais voilà, ça c'est une politique qui est dans la continuité de celle de Sarkozy, et une politique qui est anti-ouvrière, qui est véritablement scandaleuse. Hein, surtout quand on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Plus d'argent pour les hôpitaux, plus d'argent pour l'école, plus d'argent pour les équipements publics, plus d'argent pour les transports. Voilà, alors les travailleurs ont quand même une leçon à tirer de tout ça, hein, de ces 6 premiers mois du gouvernement, c'est qu'ils ont à se battre non seulement contre un patronat qui est à l'attaque, qui sait exactement ce qu'il veut, qui est prêt à nous faire reculer des années et des années en arrière, qui est prêt à imposer des sacrifices sans fin aux travailleurs, et ils auront aussi à se battre contre un gouvernement. C'est pas seulement le patronat. Qu'on a en face de nous, mais on a aussi le gouvernement socialiste. Voilà sur la situation intérieure. Alors, je vais quand même vous dire quelques mots aussi sur ce qu'on a discuté par rapport à la campagne électorale qui a quand même marqué l'année. C'est que nous tirons un bilan plutôt positif de cette campagne électorale. Je parle d'une seule et même campagne, en fait, ça a été la campagne présidentielle qui s'est enchaînée sur les législatives, mais pour nous, c'était une seule et même campagne. Donc, on tire un bilan plutôt positif. Alors, bien sûr, on aurait préféré faire un meilleur score, ça c'est sûr, hein, on aurait préféré faire mieux à ce niveau-là, mais en même temps, on était préparé à ce que... on soit dans des niveaux très bas. On était préparé à ça et donc nous n'avons pas été tellement surpris parce que bah, nous étions tout à fait conscients hein, que présenter dans cette élection, dans ces deux élections, un programme de lutte, c'était à contre-courant de la situation générale qui existe dans la classe ouvrière, qui est davantage à l'attentisme, à une certaine résignation aussi. Donc nous étions conscients de prendre, d'être à contre-courant. On était conscients aussi de l'être en levant le drapeau du communisme, en affirmant cette nécessité qu'il y aurait à contester le pouvoir de ce grand capital sur toute l'économie et sur toute la société. Parce que ces gens-là sont des irresponsables, parce que c'est des gens qui nous emmènent à la ruine. Donc, on était conscients évidemment d'anticiper, hein, d'être bien en-dessus de ce que... de ce qu'aujourd'hui les travailleurs pensent, mais pour nous c'était indispensable de l'affirmer parce que il n'y aura effectivement que cela hein, pour que les travailleurs se sortent de cette situation. Donc si nous pensons que si nous sommes plutôt satisfaits de cette campagne, c'est tout simplement parce que nous avons pu défendre nos idées, que nous en sommes donné les moyens, que ça a été un effort militant que nous avons réussi à assumer finalement, parce que ne serait-ce que de trouver les parrainages nécessaires à la candidature pour la présidentielle, c'est quand même un effort militant qui reflète une vitalité militante de notre organisation. Le fait de présenter également des candidats dans toutes les circonscriptions hein, pour les législatives, cela reflète aussi cette vitalité. Donc, et puis, on a fait une campagne militante en organisant toute une série de meetings, de réunions, de discussions sur les marchés, dans les quartiers populaires. Donc, voilà, on a eu le sentiment eh bien, de se saisir de cette occasion hein, pour défendre toutes nos idées. Voilà, et je reviendrai quand même sur une chose, c'est que nous avons passé toute la campagne à dire que l'arrivée de Hollande au pouvoir... si elle se faisait, eh bien, elle ne protégerait pas les travailleurs. Et que tous ceux qui nous expliquaient « mais ça ne peut pas être pire qu'avec Sarkozy », eh bien, on leur répondait que si, ça peut être pire qu'avec Sarkozy. Pas du fait de la personnalité de Hollande, mais du simple fait que la crise, elle pouvait continuer, elle pouvait se poursuivre, que le chômage pouvait s'aggraver, et que nous savions que dans cette circonstance, dans cette situation-là, le patronat, il serait... de plus en plus rapace, de plus en plus à l'offensive, de plus en plus à l'attaque. Et nous l'avons dit que le gouvernement ne s'opposerait pas à ce patronat, qu'il le laisserait faire et que donc, oui, la situation pour les travailleurs, elle pouvait encore être pire, y compris avec un gouvernement socialiste. Eh bien, nous voyons aujourd'hui qu'on ne s'est pas trompé et que cette campagne, elle a été utile, finalement, elle a été utile pour préparer la situation que nous vivons aujourd'hui. Elle nous a été utile pour fixer un cap hein, qu'aujourd'hui nous suivons encore cette nouvelle situation. Voilà, je vais conclure aussi sur le fait que dans ce congrès, comme nous le faisons chaque année, nous avons invité des camarades étrangers qui militent sur les mêmes bases que nous, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Turquie, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie. Alors leurs interventions ont montré une chose, c'est que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres, eh bien, la crise elle se traduit par un sauvetage des plus riches de la bourgeoisie et par une aggravation accélérée des conditions de vie des classes populaires. Et au-delà des témoignages des camarades espagnols ou italiens, ce sont les interventions aussi des camarades venus d'Haïti et de Côte d'Ivoire qui nous ont beaucoup marqués, hein, comme chaque année, parce que là, dans ces pays, il y a effectivement à la fois les conséquences de la crise, mais mais il y a eu des conditions aussi particulières et spécifiques, et des situations révoltantes, hein, où on voit que les populations sont piétinées, et où aussi on peut dénoncer une responsabilité de l'impérialisme français et de la bourgeoisie française, encore aujourd'hui. Voilà. Donc, je m'arrêterai là pour cette présentation du congrès. Je vous laisse la parole.
Utiliser un micro.